mais en parallèle, ses sensations de présence, ses ressentis. Je me suis dit plus sérieusement que ça devait être lui. Je me prenais à penser, si ça se trouve, c'est vraiment lui qui essaye de te dire un truc. C'est con que t'aies peur comme ça.
Ah oui ?
Alors, je me suis adressé à lui à haute voix. Désolé, ça me fait peur. Je serais très contente de te revoir, mais ça me fait peur. Alors, préviens-moi avant d'apparaître. Envoie-moi un signe, parce que là, à chaque fois, ça me surprend.
Vous lui avez dit ça la première ou la seconde fois ?
La seconde. Parce que cette deuxième apparition m'a fait réaliser qu'il essayait peut-être de me parler, que là où il se trouvait, il tentait peut-être des choses qu'il ne maîtrisait pas bien, et que si je lui expliquais que ça me faisait peur, il allait essayer un autre moyen. J'étais seul à la maison. C'était trop radical. Par contre, après, je ne l'ai plus jamais revu.
Le caractère réellement impressionnant de ces deux visites convainc Stéphanie que, même si tout ce qu'elle vit depuis le 16 avril est déroutant et incompréhensible, ce n'est pas elle qui le provoque. Elle ne peut croire que ce soit dans sa tête. Il ne s'agit pas d'interprétation de sensations vagues, mais de ressentis envahissants et indiscutables. Ces deux visions achèvent de lever ses doutes. Stéphanie n'est pas en train de devenir folle. Il se passe vraiment quelque chose qui lui échappe.
Elle commence alors à se documenter.
Elle lit, s'intéresse au sujet de la vie après la mort, domaine qu'avant de perdre Léo, elle ne prenait pas au sérieux. Elle fait le tri et réalise progressivement que d'autres personnes dans la même situation de deuil qu'elle rapportent exactement les mêmes expériences que celles qu'elle vit depuis avril. Ce qu'elle traverse n'est pas unique, mais elle est bien seule face à ses questions. Alors, Stéphanie commence à se faire à l'idée, si inattendue pour elle il y a encore 3 mois, que Léo est encore près d'elle, autour d'elle, et que des dizaines de milliers d'autres personnes vivent ce qu'elle vit. Au-delà des croyances, cette présence de Léo est réelle à ses yeux. Se manifeste-t-il pour l'aider à supporter son départ ? Elle adhère à cette idée, tant elle mesure, après coup, combien cela l'a énormément soutenue. Malgré la mort, une partie de Léo est encore là, offrant son soutien et son amour. Peut-être la violence de l'accident et la rapidité de son départ lui imposent-elles également de demeurer un temps proche des vivants, afin qu'il s'habitue à une nouvelle réalité. Stéphanie s'interroge. Mourir dans ces circonstances est pour le moins soudain, à l'opposé d'une maladie qui permet au défunt, comme à son entourage, de se préparer à l'idée. Les premiers mois, Stéphanie a vécu beaucoup d'expériences, puis elles ont commencé à décliner tout en restant régulières. Et un peu avant le premier anniversaire de la mort de Léo, tout s'est arrêté. Plus de 10 ans après le drame, je suis curieux de savoir comment Stéphanie perçoit ce qu'elle a vécu. Quel impact ont eu ces expériences sur votre parcours de deuil, selon vous ?
Elles ont facilité la première étape du deuil, qui est marquée par la douleur, la souffrance de l'absence. J'avais l'impression qu'il était encore là, même si je souffrais malgré tout du manque physique. Je ne pense pas que ça ait retardé quoi que ce soit. Ces expériences ont été un peu perturbantes, mais plutôt dans le bon sens.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ce que je vivais était incompréhensible, mais, en définitive, plutôt chouette. Léo est venu m'encourager à rester vivante. Il m'a redonné envie de vivre. Ces expériences ont ouvert une part spirituelle en moi que je n'avais pas vraiment exploitée avant. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir. J'ai l'impression depuis de m'être tellement développé au niveau personnel. Cela m'a enrichi, guidé vers qui je suis et ce que je dois faire. Quand je repense aux premières sensations que j'ai eues de lui juste après l'accident, puis dans les mois qui ont suivi, je réalise que pour moi, c'était clair que ça venait de lui. C'était évident dans mon corps. Tout mon corps le sentait. pas forcément mon cerveau. Lorsqu'au début je m'interrogeais intellectuellement sur la nature de ces expériences, j'avais des doutes. Est-ce vraiment lui? Est-ce que ce n'est pas mon imaginaire? Les recherches que j'ai faites sur le sujet sont venues conforter la réalité de ces phénomènes. Mais en fait, oui, aujourd'hui, je suis sûr que c'était lui, tout le temps, parce que mon corps a toujours su que c'était lui.
Il a fallu du temps à Stéphanie pour intégrer ces phénomènes. Elle n'était pas préparée le moins du monde, déjà à perdre son amour, mais pas plus à vivre ces expériences si étranges et pourtant réconfortantes en définitive.
Comme Héloïse, dont le fils a été tué dans un attentat terroriste et qui n'ose parler à ses proches de ce qu'elle a vu, tant cela lui semble insolite.
Chapitre 5. Silence. Pourquoi ce silence?
Héloïse a perdu son fils, Arthur, dans les circonstances terribles d'une attaque terroriste, une tragédie à laquelle notre pays est de plus en plus confronté aujourd'hui.
Au milieu du drame et de la souffrance indicible qu'elle traverse depuis la mort d'Arthur, Héloïse a vécu des choses curieuses à plusieurs reprises. Des ressentis inexplicables, des sensations mystérieuses, l'impression de percevoir Arthur.
Ça semblait si réel. Héloïse ne sait qu'en penser.
Est-ce une sorte de rêve, une hallucination, une forme d'imagination incontrôlée due à la douleur, la dépression qui menace? Est-ce un signe? À qui en parler pour obtenir des réponses? Comment évoquer ces sensations sans donner l'impression de perdre la tête?
Que vont en penser la famille, les amis? À qui demander conseil?
À qui s'ouvrir de cela?
Lorsque je rencontre Héloïse dans un bel appartement ensoleillé, les souvenirs de cette journée où son fils est mort lui reviennent avec netteté, même si de nombreux mois se sont écoulés depuis.
Comment pourrait-elle oublier ces heures qui ont changé sa vie à jamais?
Je me suis senti mal toute la journée du drame, avant même d'apprendre ce qui était arrivé.
Que ressentiez-vous?
Je ne sais pas comment le dire. Je n'étais pas bien.
Aviez-vous déjà éprouvé un sentiment d'inconfort similaire en d'autres occasions?
Jamais. Mais que dire de plus? Peut-on parler d'intuition alors que je ne reliais cette sensation à rien de précis?
Héloïse me regarde en silence. Je mesure le vide incommensurable qu'elle a dû ressentir en recevant la nouvelle. Perdre un enfant.
Héloïse caresse le chat qui vient de se joindre à nous.
Elle me parle des jours qui ont suivi, des funérailles de son fils, puis de la vie qui continue, si curieusement.
De ce quotidien qui se réinstalle avec cette sensation permanente qu'il manque quelque chose d'essentiel. Quelqu'un.
Et progressivement, nous en venons à la raison de ma présence chez elle aujourd'hui.
Plusieurs mois après le drame, après avoir lu mon livre « Le test », Héloïse m'a envoyé un message intriguant. Notre fils adoré a été tué. Après l'état de choc, le chagrin insoutenable, la colère, l'anéantissement, enfin tout ce que peut ressentir une famille fusionnelle, j'ai voulu en savoir plus. Et surtout, mon fils m'est apparu. Le fait de voir ces choses me fait tenir le coup. Qui pourrait m'expliquer un peu plus ce qui se passe dans ces cas-là?
Ce courrier m'a interpellé. Mon fils m'est apparu. Que voulait-elle dire?
Et puis, les mots de cette mère m'ont ému.
Ressentant son attente, j'y ai répondu immédiatement, et quelque temps plus tard, je lui rendais visite. Vous voulez me raconter ce que vous avez vu? Héloïse garde le silence un instant. Je la sens hésitante, presque gênée, partagée entre l'envie brûlante d'aborder enfin ce qui lui apparaît comme une source d'espérance, si ténue soit-elle, et la crainte de paraître naïve à vouloir se raccrocher à ce qui pourrait s'avérer n'être qu'une illusion.
Mise en confiance par mon écoute, elle commence. C'est arrivé environ 2 semaines après sa mort. Je dois d'abord vous dire que je n'ai jamais aimé dormir dans l'obscurité, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'être dans le noir après le décès d'Arthur, dans le noir complet. C'est durant ces nuits que j'ai commencé à voir des choses bizarres au plafond, comme des volutes blanches et noires. Au début, ça me faisait un peu peur.
Qu'entendez-vous par volutes ?
Des sortes de nuages qui bougent.
Dans le noir ?
Oui.
Vous pourriez me décrire cette vision avec vos mots ?
Il s'agissait d'un nuage. Un petit nuage dans lequel j'ai aperçu comme un éclair à un moment donné, une lumière. Et puis, j'ai commencé à discerner des visages. Surtout celui de mon fils.
Vous êtes sûr que vous ne dormiez pas ?
Non. J'étais réveillé. J'avais conscience d'avoir les yeux ouverts.
Cela se passait 2 semaines après le drame.
Oui. Une 15aine de jours après. Peut-être un peu moins. J'ai le souvenir que c'est arrivé très rapidement après sa mort.
Cela s'est-il produit à plusieurs reprises ?
Oh oui, de nombreuses fois.
Lorsque vous êtes allongé dans votre lit, sauriez-vous me dire la taille de ce qui vous apparaît ?
Eh bien, ça dépend. Ça reste peu de temps. C'est comme si je contemplais un ciel nuageux et que dans les nuages, par moments, une petite lumière apparaissait puis repartait. Et alors, je vois le visage de mon fils, ses yeux. Je vois ses yeux. Je les reconnais, oui, c'est lui. Et puis cela s'est estompé au fil du temps, et aujourd'hui c'est devenu très rare. Mais au début, je ne sais pas si je le dis.
Racontez-moi.
En fait, mon plus grand regret est de ne pas avoir pris mon fils dans les bras après sa mort.
En disant ces mots, Héloïse est soudain saisie par l'émotion et ne peut retenir ses larmes. Je garde le silence.
Après quelques instants, elle reprend. Alors je l'ai fait. Lorsque son visage m'est apparu la première fois, je l'ai fait. Je l'ai pris dans mes bras. C'est bizarre.
Mais non, ne dites pas cela.
Si, parce que j'ai senti quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai aucune preuve.
Qu'avez-vous senti ?
J'ai mis mes mains dans les siennes. Et alors je ne sais pas si c'est du magnétisme, même mon psy n'a pas réussi à trouver une explication. Mais j'ai senti quelque chose dans mes bras. Un poids.
Vous avez senti un poids en touchant cette vision ?
Oui. Là, par exemple, si je bouge mes mains maintenant, elles ne rencontrent que le vide. Mais cette nuit-là, elles touchaient quelque chose.
C'est incroyable.
Oui. Mais bon, comment savoir si c'était lui ?
Lorsque vous avez vu son visage, avait-il une expression particulière ? Vous a-t-il parlé ?
Il souriait. Il ne bougeait pas. Quant à moi, j'avais les yeux ouverts. Je ne dormais pas, je vous assure. Ce n'était pas un rêve. J'en suis absolument certaine.
Ces expériences ont-elles été spontanées ?
Oui, je ne m'y attendais pas. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai aucune preuve. C'était quoi ?
Je sens Héloïse sur la réserve, partagée entre espoir et doute. Elle me fait l'effet d'être une personne désireuse de garder les pieds sur terre, mais qui néanmoins ne parvient pas à ignorer le trouble qu'elle a ressenti ces nuits où, dans le noir, elle a vu apparaître le visage de son fils.
Était-ce vraiment lui ?
Je lui confie que son récit est loin d'être unique. Stéphanie, Nathalie et d'autres nombreux témoignages similaires évoquent la vision d'un visage, celui de l'être qui vient de mourir.
Un visage immobile qui surprend, puis qui rassure.
Héloïse doute de la réalité d'un contact avec son fils.
C'est non seulement normal, mais constitue même à mes yeux un gage de sa sincérité. Je retrouve en elle la même prudence rassurante dont font preuve la plupart des témoins que j'ai rencontrés au fil des ans. Ils sont les premiers à questionner la réalité de ce qui leur a été donné de vivre. Loin de vouloir me convaincre qu'elle a vu Arthur, elle s'interroge, sonde son psychiatre qui la suit depuis le drame, m'écrit pour me demander ce que j'en pense. Son psychiatre la rassure d'ailleurs. S'il reconnaît que les expériences d'Héloïse sont mystérieuses, il observe qu'il ne s'agit pas d'hallucinations. Il laisse la porte ouverte et, avec bienveillance, permet ainsi à sa patiente de cheminer elle-même dans un questionnement qui dépasse le cadre d'un accompagnement psychothérapeutique. Je confirme ces deux éléments à Héloïse. De très nombreux parents ont vécu la même chose après le départ d'un enfant et aucune cause psychologique ne permet d'expliquer ces visions. Il n'est pas irrationnel d'imaginer qu'il puisse s'agir d'Arthur. Après le récit qu'elle vient de me livrer, au-delà des doutes légitimes qu'elle éprouve, j'aimerais l'amener à me parler de ce que ces expériences ont fait naître en elle. Participe-t-elle à une forme d'apaisement ? Apporte-t-elle un peu de réconfort dans son cheminement de deuil ? Ou génère-t-elle de l'angoisse ? Que ressentez-vous aujourd'hui ? Sa réponse me surprend par sa spontanéité et son assurance. Arthur est avec moi.
Avec vous ?
Je lui parle. Mais même si je n'entends pas sa voix, je sens qu'il est tout le temps avec moi. Je continue à vivre. Je pleure très souvent, bien sûr. J'ai des gros coups de chagrin, mais pas de colère. Je veux rester debout pour lui. J'ai la sensation qu'il m'aide à avancer, qu'il est là.
Vous le sentez présent ?
Oui, même si je n'ai aucune certitude, bien sûr. J'aimerais avoir d'autres signes. Les expériences d'Héloïse ont ouvert quelque chose en elle qui, pour l'heure, demeure encore conflictuel.
D'un côté, la force d'une expérience vécue, et de l'autre, l'impossibilité qu'une telle expérience puisse être acceptée comme totalement réelle. J'observe la dissonance que cela provoque. Ce fut longtemps la mienne, je l'ai dit. Or, il appartient à chacun, dans son intimité, de trouver le point d'équilibre. C'est une affaire de preuves, de science et de cheminement intellectuel, mais pas seulement. Je comprends tellement cet insatiable besoin d'un signe de plus, moi qui, durant des années, n'ai cessé de demander à mon frère Thomas, puis à mon père, encore un signe, encore un message, comme si à un moment, à force d'accumulation, j'allais enfin pouvoir être sûr. Dans la demande d'Héloïse, il y a cependant une autre attente. Le besoin d'être rassuré sur un point essentiel, une information qu'a priori seul Arthur détient. A-t-il compris ce qui lui était arrivé ? Et va-t-il bien ? Elle s'en ouvre à moi.
Vous expliquez dans le test que votre père a eu le temps de réaliser qu'il allait bientôt mourir. Il savait ce qui allait lui arriver. Mais pour ceux qui partent violemment comme Arthur, comment peuvent-ils se préparer à la mort ?
Plutôt que de lui faire part des hypothèses que j'ai pu collecter à ce sujet et que nous allons développer plus loin, je lui demande ce qu'elle ressent au fond d'elle.
Je ne sais pas. Ce qui est curieux tout de même, c'est qu'Arthur a revu tous ses amis 15 jours avant sa mort. C'est sa femme qui me l'a dit. Ça l'a vraiment frappé. Ils ont revu tous leurs amis sans discontinuer pendant 2 semaines. Et ils en avaient des amis. Mon fils et sa femme travaillaient beaucoup et sortaient souvent aussi. Mais là, sa femme a vraiment été troublée, a posteriori, car c'est comme s'il avait pris le temps de voir tous ceux qui lui étaient chers avant ce jour de l'attentat. Même nous. Arthur est venu à la maison 2 jours avant pour voir son père.
J'étais dehors, une course à faire,
et je ne pensais pas qu'il m'attendrait, mais il m'a attendu, et l'on a passé un petit moment ensemble.
Arthur avait-il la prémonition inconsciente de ce qui allait arriver ?
Comment interpréter cet empressement si inhabituel à vouloir passer du temps avec tous ceux qu'il aimait les semaines précédant sa mort?
Héloïse se questionne sans parvenir à décider s'il s'agissait bien de signes avant-coureurs.
D'autant plus qu'elle porte un regard lucide et garde un certain recul en reconnaissant qu'il faut se méfier des interprétations que l'on a tendance à faire après les événements.
Mais tout de même, coïncidence ou pressentiment?
Notre âme, sait-elle quand nous allons mourir?
Cette question va se reposer à de nombreuses reprises au fil de mes rencontres et trouver des éléments de réponse pour le moins surprenants. Je prends congé d'Héloïse, impressionné par son témoignage.
Cette maman rationnelle, touchée dans sa chair par la perte brutale d'un fils, s'interroge sur la nature de ces expériences si déstabilisantes et pourtant si réelles.
Une fois au bas de l'immeuble, je suis encore imprégné par l'émotion qui s'est manifestée durant notre entretien. Héloïse se demande si son fils a tout de suite compris ce qui lui était arrivé le jour de sa mort.
J'ai eu la même interrogation après la mort de mon père.
Nous allons explorer cette question en détail, mais avant cela, est-ce qu'en définitive, toutes ces expériences ne seraient pas tout simplement le fruit de notre imagination?
Chapitre 6. Et si tout cela s'expliquait?
Aussi étrange que puissent paraître les récits d'Adèle, Cécile, Jennifer, Stéphanie, Nathalie ou Héloïse, est-il possible de les expliquer rationnellement?
Ces fameux VSCD, vécus subjectifs de contact avec un défunt, se produisent dans des moments où la personne est si fragile, dans une telle détresse psychique consécutive à la mort d'un être aimé, qu'un mécanisme psychologique pourrait être en jeu.
Une protection inconsciente qui générerait des sortes d'hallucinations thérapeutiques.
Je me tourne vers mon ami Christophe Fauré, qui recueille fréquemment des récits de ce genre dans son cabinet.
Christophe est psychiatre, psychothérapeute et accompagne des personnes en deuil et en fin de vie depuis plus de 20 ans.
Ces VSCD ne pourraient-ils pas s'expliquer par une sorte de mécanisme de compensation émotionnelle lié au processus de deuil?
Pour lui, ce n'est clairement pas le cas.
L'argument majeur plaidant en faveur de cette analyse et que ces expériences surviennent de manière inattendue et soudaine dans la vie de la personne.
Les gens sont surpris par leur côté inopiné.
Ces expériences ne se déclenchent pas chez des individus qui aimeraient avoir des signes, bien au contraire.
Certains en désirent et ne vivent rien. D'autres n'y pensent pas et quelque chose se produit. Christophe est intrigué depuis des années par ces témoignages si particuliers que lui font ses patients.
Comment les interpréter le plus justement?
Le médecin qu'il est a le souci de l'équilibre émotionnel et psychique des personnes qui le consultent.
Aussi a-t-il été d'emblée tenté de déceler si ces récits ne cachaient pas une forme d'hallucination, une fragilité dangereuse due au deuil, ou encore la menace d'une plongée dans le délire.
Son expertise se base sur des décennies d'observations. Je suis à chaque fois impressionné par sa rigueur dès lors qu'il parle de son métier exercé avec tant de sérieux et de bienveillance.
Il répond à mes questions avec le calme qui le caractérise.
S'il s'agissait d'un mécanisme de protection contre la douleur, cela apparaîtrait de manière presque systématique chez toutes les personnes en deuil.
L'esprit humain possède des mécanismes de protection. Ils sont assez universels et pas si nombreux que cela.
Et surtout, on les connaît, on les observe, et ils s'activent dès que nécessaire chez tout le monde.
Or, tout le monde ne fait pas de VSCD.
Alors, pourquoi ne se produirait-il qu'à certains moments et chez certaines personnes uniquement?
En quelques phrases, Christophe démonte cet argument du désir comme déclencheur de ses expériences.
Les personnes en deuil sont dans le manque terrible de la personne défunte.
Dès lors, si le désir dû au manque était l'agent moteur de l'apparition d'un VSCD, tout le monde, et plus particulièrement les parents, mais aussi les conjoints en deuil, en vivrait un,
provoquée par ce supposé mécanisme psychique. Or, ce n'est pas ce qu'on observe.
Nathalie a vu Léo sans qu'elle en ait ressenti le besoin ou l'envie.
Éric, qui aurait bien aimé le voir, ne l'a pas vu.
Même si on ignore ce qui déclenche ces expériences, ne peut-il s'agir d'hallucinations?
Non. Ce ne sont pas des hallucinations, parce que l'hallucination est un symptôme psychotique. Elle survient soit dans un contexte d'altération de la conscience lié à un produit extérieur, drogue, alcool, soit à cause d'un dysfonctionnement psychique d'ordre psychotique qui peut être de type schizophrénique, un délire paranoïaque, un trouble dégénératif comme Alzheimer qui peut engendrer ces hallucinations.
C'est-à-dire, en clair,
une hallucination n'apparaît pas seule, spontanément, chez quelqu'un de parfaitement sain d'esprit. Quand une personne commence à avoir des hallucinations, on détecte très vite d'autres symptômes associés. Ça se voit. Une hallucination envahit la vie de la personne, alors que les VSCD n'ont pas ce caractère envahissant.